Une diversité de sujets scientifiques comme tous les vendredis dans notre club des Têtes au Carré. Au menu aujourd'hui, la mer expliquée à nos petits-enfants avec Hubert Reeves, le retour de Madame de Néandertal avec Pascal Pic. Et puis Bernard Choca nous dira pourquoi les Français restent méfiants vis-à-vis de l'eau du robinet. Sur tous ces sujets, vous nous rejoignez bien sûr sur franceinter.fr et sur les réseaux sociaux avec le mot-clé l'attaque. Et puis à la une de la science aujourd'hui, la survie et la santé des bébés nés grands prématurés qui se sont améliorés de façon significative. C'est ce qui ressort d'une étude INSERM qui vient de paraître. On en parle avec l'épidémiologiste Pierre Yvancel et l'infirmière puéricultrice Delphine Mantec. Violaine Ballet, la grande chef sous de cette tête au carré qui a été popotée par Anne-Cécile Perrin, Axel Villard et Fanny Cohen-Moreau.
La tête au carré, le club, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Hubert Reeves, Pascal Pic, Bernard Choca, bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bienvenue Hubert Reeves avec ce livre « La mer expliquée à nos petits-enfants ». C'est le capitaine Reeves, marin au long cours, donc là, hein, défenseur de l'environnement, qui s'adresse aux plus jeunes.
Oui, c'est effectivement le but. C'est, je pense qu'il s'est passé dans les années 1960 environ, quelque chose de fondamental pour l'histoire de la Terre. On a découvert des choses qu'on ignorait depuis toujours, évidemment, ce qu'on appelle la tectonique des plaques, c'est-à-dire le comportement des océans, le comportement des volcans. Tout cela qui restait très mystérieux depuis très longtemps s'est éclairci. Et parmi les gens qui ont joué un rôle important, il y a Yves Lancelot,
qui est partenaire
océanographe, qui a assuré la valeur scientifique de ce message qu'on a essayé de mettre en termes compréhensibles par des enfants ou du moins par des adolescents.
C'est ça. Et l'astrophysicien a beaucoup de choses à nous dire parce que la mer vient de l'espace. On peut le résumer comme ça, mais on l'expliquera tout à l'heure avec vous. Hubert Reeves, de l'océan à l'eau du robinet, il n'y a qu'un pas que nous allons franchir avec vous, Bernard Choca. Les Français sont de très grands consommateurs d'eau en bouteille. Ça veut dire qu'ils restent encore très méfiants vis-à-vis de l'eau du robinet aujourd'hui ?
Oui, ils sont très très méfiants parce que je pense qu'on les encourage beaucoup à boire de l'eau en bouteille plus que l'eau du robinet. Bon, en pratique, mon propos, ce n'est pas du tout de lancer la guerre entre les deux eaux.
Elle existe déjà, de toute façon.
Elle existe déjà. C'est plutôt de dire, comme c'est dans un petit dessin de presse qui accompagne le dossier, que l'eau du robinet et l'eau en bouteille se ressemblent comme deux gouttes d'eau.
Oui, sauf que l'une est beaucoup moins chère que l'autre. Hein.
Sauf que l'une est beaucoup moins chère que l'autre.
C'est l'eau du robinet 200 fois moins chère que l'eau en bouteille. On en parlera avec vous tout à l'heure. Pascal Pic, est-ce que techniquement, on pourrait aujourd'hui ressusciter un néandertalien avec des traces d'ADN fossiles?
Aujourd'hui, peut-être pas, mais je prends le pari d'ici 20 ans. Oui.
C'est ce que vous écrivez.
Absolument, et puis j'en profite pour présenter une fable du genre des lettres persanes, mais avec une femme de Néandertal, pour parler de notre monde. Alors Hubert Reeves le fait, je le fais, nos amis le font, et ce serait évidemment un témoignage. Que dirait une femme de Néandertal qui a connu l'expansion d'Homo sapiens, oui, sur Terre et sur Mer d'ailleurs, sur l'état de notre monde pour l'avenir de l'humanité.
Voilà, Madame de Néandertal, observatrice donc de notre civilisation, on en parlera également avec vous. Voilà pour les sujets de ce club des Têtes au Carré avec les auditeurs qui nous rejoignent sur le site de l'émission. À la une de la science aujourd'hui, la santé et la survie des enfants prématurés qui s'améliorent nettement en France. Pierre Yvancel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes épidémiologiste, c'est vous qui avez coordonné ce travail pour l'INSERM et l'Université Paris-Descartes, on va en parler avec vous. Delphine Mantec, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes infirmière puéricultrice dans le service réanimation pédiatrique de l'hôpital Armand Trousseau. Pierre Yvancel, augmentation donc de 14% du taux de survie chez les enfants nés prématurés donc sur une période de 15 ans, ce sont des très bons chiffres. Est-ce que d'abord ils concernent tous les enfants prématurés?
Alors, c'est pas tous les enfants prématurés. On parle là d'une population particulière qui est celle des grands prématurés. Mmh. Et l'amélioration de la survie, elle est surtout observée pour des enfants qui sont nés entre 25 et 31 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire entre le 6e et le 7e mois de la grossesse. C'est pour ces enfants-là que l'amélioration a été la plus sensible.
Ouais. Et avant, alors, pour les enfants donc nés avant?
Alors, pour les enfants qui sont nés, on va dire, autour du 5e mois de la grossesse, donc très très immatures, on n'a pas observé d'évolution de la survie.
Ouais.
Et la survie reste faible dans cette population-là.
Ouais. Comment vous expliquez alors ces bons résultats pour cette première catégorie dont on parle?
Alors je voulais juste insister sur le fait quand même que ces bons résultats, c'est à la fois une amélioration de la survie, mais qui ne s'est pas faite aux dépens d'une augmentation des pathologies que ces enfants pouvaient présenter autour de la période néonatale.
Ouais. Donc c'est la survie en bonne santé aussi, hein,
voilà,
de ces enfants.
Voilà, survie en bonne santé à l'issue de l'hospitalisation dans les services de néonatologie. Donc ça c'est un élément positif, parce qu'ils sont plus nombreux à survivre et plus nombreux à survivre sans doute dans de bonnes conditions.
Mmh.
Alors comment est-ce qu'on peut expliquer cette amélioration-là, probablement par une amélioration globale de la prise en charge de ces enfants, aussi bien je dirais pendant, juste avant l'accouchement, que juste après. Et je pourrais donner quelques exemples d'évolutions qui sont significatives. Par exemple, on constate qu'il y a plus de mamans à très haut risque d'accoucher prématurément qui arrivent dans des maternités dites de type 3, qui sont susceptibles d'accueillir à la fois la maman et le bébé, parce qu'il y a des services de réanimation néonatale. Et puis, par exemple, à l'issue de la naissance, on va donner plus de traitements qui sont considérés comme efficaces. Par exemple, le surfactant qui va pallier à l'immaturité pulmonaire et aider l'enfant à mieux s'adapter et à vivre dans de meilleures conditions. Donc, c'est des progrès qui ont été accomplis assez nettement ces dernières années.
Alors, Delphine Montec, vous êtes infirmière puéricultrice, une jeune infirmière puéricultrice, hein, si j'en juge. 4 ans d'expérience. Donc, il y a 15 ans, vous n'étiez pas là. Mais est-ce que vous avez, vous aussi, d'une certaine manière, observé ces changements dans la prise en charge justement des mamans et de leurs bébés?
Oui, moi je l'ai vu plutôt dans l'accompagnement qu'on peut faire en tant que soignant, du coup notre rôle sans prescription médicale. Je l'ai vu parce que on commence à comprendre que l'enfant prématuré a des compétences et du coup on les met en avant et on peut montrer aux parents ces compétences-là.
Qu'est-ce que vous entendez par compétences d'un enfant prématuré?
Ces compétences, c'est-à-dire que malgré qu'il soit né plus tôt, il va pouvoir avoir des phases d'éveil, il va pouvoir mettre en avant des compétences d'oralité, des compétences de lien d'attachement, malgré cette naissance précoce. Ouais.
Et ça, c'est des choses qu'on ignorait avant ou qu'on ne mettait pas du tout en valeur?
On va dire qu'on ne les mettait pas en valeur parce qu'on était peut-être plus focalisé sur le médical et la technique.
Ouais. Et c'est absolument essentiel, Pierre-Yves Ancel, justement.
À mon avis, complètement. C'est-à-dire qu'à la fois, je dirais, les deux sont nécessaires. La technique, parce qu'on a besoin de les prendre en charge et quelquefois activement, et il faut avoir les bons traitements à ce moment-là. Mais ce qu'on montre de plus en plus, c'est qu'il faut aussi prendre en compte l'enfant dans son environnement et donc favoriser le lien avec ses parents et essayer en même temps de réduire au maximum les sources de stress, le bruit, la lumière, les gestes invasifs, parce que tout ça, ça va probablement conditionner en partie son développement ultérieur.
Ah, ça fait réagir notre paléoanthropologue Pascal Pic, hein, ce thème.
Ah oui, parce qu'on a dit tellement de bêtises autour de l'enfance, que le petit humain est né complètement immature, c'est complètement faux, et que derrière cela, effectivement, toutes les études... Enfin, je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là, mais parce que la vraie question qui se posait quand vous avez interrogé mon collègue qui est là, c'est qu'effectivement, il y a l'aspect médical et technique, vous l'avez dit, mais on sait très bien que très très tôt, il y a tellement d'informations qui passent du milieu extérieur pour ces bébés et qui participent du développement. Et donc, alors je suis heureux d'entendre ça, voilà tout ça.
Bon, bah, très bien. Pierre-Yves Ancel, en tout cas, ce que montre cette étude, c'est que la néonatalogie reste très impuissante justement face aux très grands prématurés. On le voyait dans la première partie.
Alors on parle là, en tout cas...
Avec un taux de mortalité très important.
Oui, on parle surtout des enfants... extrêmement prématuré, donc né à 22, 23, 24 semaines. Donc on est autour du 5e mois de la grossesse. Là.
Moins de 1% d'entre eux survivent.
Oui, moins de 1%.
Moins d'un pour cent.
Oui, moins de 1%. Ouais. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, il y a deux grandes interrogations concernant ces enfants. Mm-hmm. Un, c'est qu'on ne sait pas très bien ce qu'ils vont devenir ultérieurement, même quand on s'appuie sur des études qui sont publiées à l'étranger. Et puisqu'on ne sait pas ce qu'ils vont devenir, on ne sait pas très bien non plus comment il faut les prendre en charge de manière optimale. Et donc, à mon avis, il y a vraiment une réflexion à avoir en s'appuyant sur les données de l'étude là, mais aussi d'autres travaux, sur comment est-ce qu'on peut éventuellement améliorer les choses, au moins qu'il y ait une discussion, une réflexion qui s'engage sur la prise en charge de ces plus petits.
Donc ça, c'est prévu pour les prochaines années, hein. Effectivement. C'est au une moins piste de travail importante. Oui. Axel, sur le mot-clé l'attaque, est-ce qu'il y a des réactions?
Sur l'attaque, une question par rapport à la présentation de ces enfants qui présentent un fort taux de mortalité à leurs parents. Comment on aborde la question quand on sait que l'enfant a 50% de chances de ne pas vivre?
Alors je crois que là, il faudrait se tourner vers les équipes médicales qui ont en charge ces enfants. Moi, j'insisterais sur le fait que ce type d'étude est extrêmement utile parce qu'elle permet, je dirais, de rendre compte de la complexité, de la réalité du devenir de ces enfants. Et ces informations, il faut que les équipes cliniques les aient, parce qu'on sait bien que la prise en charge de ces enfants, elle est conditionnée par la connaissance qu'on peut avoir du devenir. Donc si on sous-estime le devenir, on les prendra moins en charge, il y a un risque de perte de chance. Et au contraire, si on a l'impression qu'ils vont survivre forcément dans de bonnes conditions, on risque de les prendre en charge, mais peut-être parfois à l'excès.
Alors justement, Delphine Montet, comment vous travaillez, vous aussi, avec les parents sur évidemment ce lien très particulier avec des enfants très très fragiles?
Oui, on y travaille tous les jours. Bah, déjà, on soutient les parents, on les rassure. J'ai une image un petit peu d'une collègue à moi qui me parlait de leur hospitalisation comme d'un arbre. On est au début un tuteur. On va au fur et à mesure enlever ce tuteur et peut-être le remettre sur d'autres petites branches en fonction de l'hospitalisation, de comment elle se passe. Et tous les jours, voilà, on va les accompagner dans les soins, on va les accompagner dans des moments de lien, de peau à peau. Donc ça, c'est ce qui va être très important pour le lien mère-enfant. Mmh. Et on va les accompagner dans l'observation de leur bébé. Ça aussi, c'est important pour qu'ils comprennent voilà, qu'est-ce qu'il veut dire, malgré que ce soit un enfant qui est né plus tôt et qui ne s'exprime pas de la même manière qu'un enfant né à terme, qui va pleurer pour s'exprimer.
Et donc, chez ces enfants, avec ce taux de mortalité très très fort, là, il y a un travail tout à fait particulier aussi en direction des parents.
Vu que le taux de mortalité est plus élevé, c'est sûr qu'avec l'équipe médicale, on travaille en relation pour déjà prévenir les parents, avoir des entretiens avec eux pour leur parler des risques, des complications qu'il peut y avoir.
Et qui sont très nombreux, on le voit, dans ces cas particuliers en tout cas.
Donc c'est vrai que le premier entretien est très important et la première semaine d'hospitalisation est très importante pour leur dire que c'est une semaine vraiment à risque. Mm-hmm. Plus on évolue et plus on voit l'enfant, comment il va, on va aller un peu plus loin et se projeter un peu plus dans l'avenir et, on va dire, baisser les carapaces pour après aller plus vers ce bébé et son développement.
En tout cas, Pierre-Yves Ancel, on va rester avec ce chiffre très positif, 14% hein, donc, du taux de survie chez les enfants nés prématurés, augmentation de 14%, et qui fait l'objet de cette publication donc INSERM, qui est sortie cette semaine. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous en parler.
Merci.
Aujourd'hui, à la une de la science. Et puis en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, on apprend que le plus grand glacier de l'Antarctique orientale est en train de fondre à cause du réchauffement climatique. Totten, c'est son nom, fait 120 km de long sur plus de 30 km de large. Jusque-là, les scientifiques pensaient qu'il serait épargné encore un temps par le réchauffement. Mais une équipe australienne a constaté que l'eau autour de ce glacier est plus chaude que prévu et Totten risque de fondre par en dessous. Sa disparition totale entraînerait une hausse de 6 mètres du niveau des mers. Activer la sensation de soif chez une souris parfaitement hydratée, des chercheurs américains ont réussi à prendre le contrôle du cerveau des rongeurs grâce à l'optogénétique. Cette technique consiste à rendre certains neurones sensibles à la lumière. Dans une vidéo que vous pouvez retrouver sur la page Facebook de La Tête au Carré, on voit une souris se ruer vers le robinet dès que les chercheurs activent les cellules de la soif dans son cerveau avec un laser. Et puis pour finir, Alain Fischer, le médecin français et père des bébés bulles, a reçu hier le prestigieux Japan Prize. Le comité de scientifiques japonais a tenu à récompenser ses travaux sur la thérapie génique et sur le déficit immunitaire sévère. Le comité insiste sur le fait que les travaux d'Alain Fischer permettent désormais à des enfants initialement atteints de déficit immunitaire de vivre une vie normale. Hubert Yves, Pascal Pic et Bernard Choca dans notre club des Têtes au Carré dans un instant. Waiting for the break of day. Voilà, Pascal Pic qui est tout émoustillé en entendant Chicago. Grand spécialiste de Chicago, alors, ce que je vois. Hein.
Ah, attendez, j'étais en première à l'époque et c'était le meilleur album pop de l'année à cette époque-là.
Et c'était quoi fabuleux. L'année, Jean
69-70. Il n'y a eu que trois albums de Chicago.
Et le titre, Pascal Pic.
C'est I Am A Man. Et là, le titre-là, c'est 24.
To 6 to 4. To 6 to 4. Bravo voilà. À vous.
La tête au carré.
On est arrivé.
Le club.
Ah oui, déjà.
Avec Mathieu Vidard.
On n'a pas vu le temps passer, dis donc.
Sur France Inter.
La mère expliquait à nos petits-enfants, Madame de Néandertal, critique de notre monde, et puis l'éternel clivage eau du robinet, eau en bouteille. Ce sont donc les thèmes de notre club des têtes au carré avec mes invités, donc Hubert Reeves, Pascal Pic et Bernard Choca. Vos messages sur franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque. Hubert Reeves, président de l'association Humanité et Biodiversité, astrophysicien évidemment, et auteur donc Hubert avec l'océanographe Yves Lancelot du livre La mère expliquait à nos petits-enfants, c'est aux éditions du Seuil. C'est une collection d'ouvrages pour laquelle vous avez déjà écrit un livre sur l'univers d'ailleurs.
Absolument.
Et Pascal Pic d'ailleurs aussi, vous avez signé deux titres. Ben,
très bien, je me souviens de ton livre.
Darwin et l'évolution et les origines de l'homme. Hubert Reeves, la première fois que vous avez vu la mer, vous vous en souvenez encore
visiblement. Je m'en souviens parce que j'en rêvais depuis des années. Je vivais à Montréal, presque 1000 km de la mer. Et un été, on est parti marcher avec un groupe d'amis. Et là, sur les montagnes, en Charlevoix, au travers des feuilles, des feuillages, quand j'ai vu briller la mer, pour moi, ça a été un moment ineffable.
C'était très différent du Saint-Laurent, alors, cette vision de la mer
C'est surtout dans la tête, bien sûr, parce que c'était le Saint-Laurent très large.
C'est ça.
Ce qui est large, on ne voyait pas l'autre côté. Ouais. Mais c'est surtout ce mot, cette réalité dont vous avez rêvé et que tout d'un coup, vous voyez pour la première fois, c'est fantastique.
Alors évidemment, aujourd'hui, il y a des enjeux très forts autour de la mer et c'est un milieu qui souffre particulièrement de l'activité humaine.
C'est ce qu'on découvre aujourd'hui avec la découverte de ces fameux continents de plastique qui sont grands comme la France et dans lesquels il y a une quantité. Alors, il ne faut pas exagérer. Parce que quand on dit continent, on pense qu'on pourrait y débarquer.
C'est trompeur,
vous ne pouvez pas débarquer sur un continent qui a une pièce de plastique par mètre carré. Parce que vous allez vous mouiller.
Ouais. Ça, et puis c'est des microparticules, en fait. Il y
a de tout. Il y a des poussettes de bébé, il y a des tubes de pâte à dents, il y a des brosses à dents, il y a des quantités. Des bouteilles de shampoing, il y a de tout. Mais ça, c'est vraiment un énorme problème dont on ne voit pas comment on va s'en débarrasser. Et non seulement cela, comment on va arrêter. Parce que c'est toute la planète qui est en jeu. On ne peut pas interdire ici ou là. C'est vraiment un problème majeur.
Ouais, avec une dégradation ultra rapide aussi ces derniers temps. Hein. C'est ça qui est assez effrayant. Dans le milieu marin, on voit vraiment les ressources qui s'épuisent à une vitesse folle.
Oui. Et puis, pour revenir au plastique, on voit les tortues qui bouffent du plastique parce qu'ils pensent que c'est des méduses. On voit les oiseaux, c'est vraiment une hécatombe.
Ouais. Alors là, l'association avec Yves Lancelot, donc océanographe, et vous, astrophysicien, c'est le fait justement de pouvoir aussi placer l'eau liquide dans son élément spatial.
Oui, c'est ça. Hein? C'est qu'en même temps, cette découverte du fonctionnement de la Terre, du rôle des océans, ça nous intéresse sur un plan plus général, qui est sur le plan du système solaire. On étudie les comètes, on vient d'aller sur la comète Chauriou récemment, on est sur Mars. Il y a ce problème global, comment s'est fait le système solaire. Et bien sûr, on peut aller ailleurs, mais sous nos yeux, nous avons la possibilité de voir comment ça fonctionne chez nous. Ce n'est pas pareil partout, bien sûr, mais même ces différences sont importantes si on veut comprendre. Si on veut comprendre comment tout ça s'est formé il y a 4 milliards 500 millions d'années. Donc c'est vraiment en direct des éléments de notre passé lointain.
C'est
comment
ça,
nous en sommes arrivés à être ici, en définitive.
Et cette arrivée de l'eau terrestre maintenant, on en connaît bien le scénario ?
Non. Non, non. L'eau terrestre, on a de bonnes idées. On pense qu'il vient en partie des comètes. Les comètes, c'est de la glace. Au début du système solaire, il y a eu un bombardement terrible d'astéroïdes, de comètes. Et on pense qu'une partie de l'eau vient de là. Une autre partie vient des astéroïdes, justement. Et une autre partie, c'est probablement le dégazage de la Terre elle-même qui était, était chaude, contenait déjà beaucoup d'eau. Donc, la question, c'est de savoir quelle fraction vient d'ici et de là. Et on a pensé que cette expérience allait confirmer confirmer le fait que la quasi-totalité venait des comètes. Ça n'est pas le cas. Les premières mesures montrent qu'il y en a vraisemblablement une partie. Mais...
Oui. Donc on ne connaît pas encore bien cette histoire, au fond.
Hein. Ah, non, on est très très loin de connaître cette histoire.
Ouais. Plusieurs hypothèses,
qui est toujours la preuve qu'on est encore loin quand il y a plusieurs théories. Quand on sait, il y a une théorie. Ouais. Quand on ne sait pas, il y a une théorie, en compétition. Et on essaie de voir quelles sont les meilleures en faisant des observations, justement.
Ouais. L'eau liquide, justement, cette eau liquide dont nous bénéficions ici sur Terre, c'était une des conditions indispensables à l'émergence de la vie. Sans elle, la vie telle qu'elle existe aujourd'hui n'aurait pas existé.
Là, il n'y a pas lieu d'être catégorique. Vous savez qu'il reste que nous ne savons pas comment la vie s'est formée, s'il y a eu plusieurs façons de former. Une hypothèse extrêmement vraisemblable, mais il ne faut pas être certain, parce que ça ne l'est pas, c'est que ça a commencé dans l'eau. Mais, encore une fois, là, il y a toujours à mettre des points d'interrogation, à être prudent dans ces affirmations.
Oui, Pascal Pic, oui, la prudence règne, en maître, toujours. Vous qui êtes un enquêteur du passé aussi.
Ce que je trouve formidable, c'est que Hubert se saisisse d'un tel sujet comme la mer, parce que, en fait, Hubert nous a tellement fait rêver depuis des décennies avec le ciel et puis les étoiles, etc. Mais il y a un immense continent qui reste encore à explorer, c'est quand même les océans et la mer. Et la première grande expédition, c'était Challenger, à l'époque de Darwin, et on voit bien que derrière, des navettes sont appelées Challenger, etc. Mmh. Donc c'est fabuleux. Donc on est encore dans un domaine où, entre la mer et le ciel, entre les molécules organiques qui viennent des comètes et l'eau en partie qui vient des comètes, tout ça, c'est pas élucidé, mais c'est assez fascinant, et la Terre entre les deux, quoi.
Ouais. C'est ça, c'est notre exemple le plus proche pour explorer la situation.
Bernard Choca, est-ce qu'on sait maintenant suffisamment bien traiter l'eau salée pour en faire de l'eau de consommation pour les pays justement qui en manquent beaucoup et qui pourraient utiliser cette technique-là ?
On sait le faire, tout est question d'énergie.
Oui.
Donc l'énergie nécessaire pour dessaler l'eau de mer est très importante. Donc si un jour on manquait vraiment d'eau douce, on pourrait toujours recourir à cette solution.
Mais il y a des coûts considérables.
Il y a des coûts considérables, il vaut peut-être mieux préserver l'eau douce.
Oui, en attendant, déjà, pour commencer. La mer, pourquoi est-elle bleue et salée ? Ça fait partie des questions qui sont posées dans ce livre, mais c'est intéressant, parce que même les adultes se posent ces questions-là. C'est pas seulement nos petits-enfants. Hein.
Tout à fait, il y a beaucoup d'histoires fausses qui courent, et justement, Lancelot était en mesure de mettre les points sur les i, ça c'est important.
Oui, donc vous nous invitez à lire ce qu'il nous raconte, Hubert, c'est ça.
Si on peut dire, oui.
Très bien. Alors, l'instabilité de la mer, en tout cas, vous en parlez aussi. Cette instabilité, justement, elle a un lien direct avec l'organisation des planètes de la Lune, par exemple, proche de nous,
c'est des questions qu'on se pose. Par exemple, on se dit quel rôle jouent les marées, et en particulier sur la Terre, cette tectonique des plaques. Ouais. Jusqu'à nouvel ordre, il n'y a pas d'évidence. Mars, apparemment, n'a pas eu de tectonique des plaques. Vénus, peut-être. Mm-hmm. C'est un moyen qui est employé à fond par notre planète, qui est potentiellement accessible à toutes les planètes, mais qui, en pratique, ne semble pas être un phénomène généralisé, du moins pas dans la forme qu'il prend sur la Terre, où, justement, l'eau semble jouer un rôle fondamental. L'eau liquide semble jouer un rôle fondamental. Et comme les autres planètes ne semblent pas avoir d'eau liquide, sinon quelques satellites de Jupiter et de Saturne, dont on a des bonnes raisons de penser qu'il y a là aussi des océans. Donc, peut-être ça joue un rôle là-bas, mais tout ça, ça fait partie des questions.
Ouais. Et ces marées, justement, on les explique comment ? Par des phénomènes de gravitation ?
Par la gravité. C'est un phénomène simple de la gravité. C'est que tous les corps sont soumis à la gravité et ça dépend de la distance. Donc, c'est ce facteur qui est la distance entre deux objets qui influence la force de gravité entre les deux objets.
Et pourquoi cette pulsation de deux marées, alors, par jour ?
Alors, cette pulsation de deux marées, a priori, on sait maintenant qu'un des acteurs principaux, c'est la Lune. Ouais. Ensuite, il y a le Soleil, mais moindre, à peu près la moitié. Et on aurait pu s'attendre à ce que, comme la Lune attire la Terre, comme la Terre attire la Lune d'ailleurs, la Terre se déforme. Et elle se déforme un petit peu en ballon de rugby. C'est rugby, je pense, ballon de rugby. Mm-hmm. Alors, on aurait pu s'attendre à ce qu'il y a une marée chaque fois que la Lune passe au-dessus de nos têtes. En fait, il y en a deux, parce qu'il faut composer ça avec le mouvement de la Terre elle-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la gravité qui compte, il y a la force centrifuge aussi qui compte. C'est ça, en gros, qui est la solution. Mais ça prend un papier et un crayon pour l'expliciter.
Pascal Pic, est-ce qu'on connaît l'histoire des premiers navigateurs ? Parce que là, justement, sur la mer, je me posais la question en lisant le livre d'Hubert Riese. Est-ce qu'on a des informations là-dessus? À partir de quand les hommes ont pris la mer, ont osé la prendre?
Eh ben, on ne s'est pas posé la question depuis longtemps. On sait que les plus anciennes cultures préhistoriques, de notre espèce d'ailleurs, Homo sapiens, c'est en Afrique du Sud, où là, il y a vraiment une économie de l'exploitation des ressources du littoral.
Oui.
Et donc, effectivement, ils vont apprendre à maîtriser les côtes. Donc, ça a commencé par cabotage, évidemment, le long des côtes. Mais la grande surprise, c'est que d'abord, on a ces petits hommes de Flores, vous savez, ce sont des Homo erectus qui sont partis de Java, qui sont arrivés, selon certaines données, il y a 800 000 ans, et qui sont devenus des espèces de lilliputiens ou des hobbits, c'est la référence actuelle. Mm-hmm. Et là, c'était il y a 800 000 ans.
Ils prenaient la mer déjà à cette époque?
Alors, donc, semble-t-il, en fait, ils ont été poussés, hein, parce que dans les îles de la Sonde, le volcanisme, c'est quand même pas mince, et ils ont navigué à vue, donc ils pouvaient traverser, sauf qu'il y a des courants énormes, hein, soyons très clairs, on a essayé aujourd'hui, c'est quand même pas simple. Donc, on peut imaginer qu'il y a eu une pression de l'environnement, et ils sont passés aussi avec des éléphants. Et là, c'est la première fois que des mammifères placentaires comme nous ont traversé cette ligne de Wallace. Hein. Wallace était un contemporain de Charles Darwin, cofondateur de la sélection naturelle. Mmh. Et la ligne de Wallace nous dit qu'à l'ouest, ce sont les mammifères placentaires, et à l'est, vous avez les mammifères marsupiaux, notamment ceux d'Australie. Mais maintenant, on sait que l'Australie a été atteinte il y a plus de 70 000 ans, et pas qu'une seule vague. Et on commence à penser que l'Amérique du Sud a peut-être été atteinte avant l'Amérique du Nord. Parce qu'on a, attendez, c'est hyper troublant, c'est récent, à l'est de l'Australie, on a trouvé des peintures rupestres avec des bateaux. Et tenez-vous bien, on retrouve quasiment la même en plein milieu du Mato Grosso, dans un site de Pedra Furada, daté de 55 000 ans. Donc en fait, on a complètement négligé la mer, comme on la néglige aujourd'hui encore pour les ressources du futur, etc. Mmh. C'est quand même incroyable comme Homo sapiens a été négligé, on a négligé nous aujourd'hui, cet impact important pour notre passé et pour notre devenir. Et aujourd'hui, donc on commence à regarder différemment, et aller en Australie, c'est au moins 80 km de mer, quel que soit le niveau des mers, quand il y a des glaciations, 80 km, donc c'est au-delà de l'horizon. Et ça, c'est peut-être ce qui nous distingue d'espèces formidables dont on parlera comme Néandertal. Peut-être qu'Homo sapiens, c'est la seule espèce à avoir cette espèce d'incitation à aller au-delà de l'horizon, que ce soit le ciel pour Hubert ou au-delà de la mer et des terres.
Il y a cette même immensité d'ailleurs, Hubert, entre la mer ou la voûte céleste.
Absolument, c'est des images de l'infini pour les gens.
Oui. J'espère qu'on ne va pas polluer l'espace comme on le fait aujourd'hui avec la mer.
Espérons-le, mais déjà avec les satellites, c'est déjà en mauvaise voie.
Ouais. La mer expliquée à nos petits-enfants, Hubert Reeves avec Yves Lancelot. C'est donc ce livre qui paraît aux éditions du Seuil.
Thank you.
et les cons, avec Cliché sur France Inter et Jean-Michel Montu qui signe bien sûr comme tous les jours la programmation musicale de l'émission. Hubert Reeves, Pascal Pic et Bernard Choca sont les invités du club de la Tête au Carré cet après-midi. Bernard Choca, vous êtes professeur émérite à l'INSA de Lyon et président d'honneur du GREI, le groupe de recherche Rhône-Alpes sur les infrastructures et l'eau, que vous avez créé d'ailleurs, et qui a dévoilé sa dernière campagne sur la méfiance à l'égard de l'eau du robinet. Voici d'ailleurs l'extrait d'un petit film réalisé autour d'un projet appelé Méli-Mélo, avec des comédiens de la série Kaamelott.
C'est quand même agréable une croisière au fil de l'eau.
Ouais.
Vous voulez boire un coup ?
C'est de la bonne eau ?
Comment ça, de la bonne eau ?
Bah, c'est pas de l'eau du robinet ?
Si, c'est de l'eau du robinet.
Ah, non, merci. Je bois plus d'eau du robinet, moi.
Pourquoi ? Qu'est-ce que vous lui reprochez ?
Bah, je reproche qu'elle est polluée. Alors merci bien, mais je tiens à ma santé.
Voilà, extrait donc de ce film dans le cadre du projet Méli-Mélo. De quoi s'agit-il exactement, alors Bernard Choca ?
Alors, d'une façon générale, le projet Méli-Mélo, c'est un projet qui vise à communiquer sur l'eau, et en particulier à essayer de faire tomber son 10 défauts qui existent.
Ouais.
L'eau, le point de vue des citoyens français sur l'eau, il est tout à fait paradoxal, parce que tout le monde a son idée sur l'eau, tout le monde en parle, tout le monde en consomme.
Et c'est très clivant, hein ?
Et c'est très, très clivant. Ouais. C'est très, très clivant. Et il y a encore pourtant la moitié des Français qui pensent que l'eau du robinet est fabriquée en recyclant les eaux des égouts. Donc on comprend pourquoi beaucoup hésitent à en boire.
Ouais, en tout cas, il y a une consommation très importante d'eau en bouteille de la part des Français qui sont dans le trio de tête, je crois.
Oui, enfin, ils sont quatrième.
On en consomme beaucoup parce que justement, on a toujours cette crainte vis-à-vis de l'eau du robinet, a priori.
Alors, c'est une des raisons. Je pense qu'il y a des raisons objectives, quand même. Il y a certaines eaux en bouteille qui ont des vertus thérapeutiques. Donc, les gens boivent parce qu'elles sont très minéralisées, que ça correspond à des besoins. Les gens boivent parce que c'est plus pratique aussi de transporter une bouteille d'eau. C'est ce qu'on est en train de faire en studio. Donc, c'est plus facile que d'avoir une carafe d'eau à côté de soi. Mais c'est vrai qu'il y a des craintes fortes sur la qualité de l'eau ou des idées qui ne sont pas forcément fausses, mais sur le goût ou l'odeur de l'eau, en particulier les goûts d'eau de chlore. Donc, on pourra en parler tout à l'heure. Donc, qui font que certains préfèrent boire l'eau en bouteille, même si elle est beaucoup plus chère ou beaucoup plus polluante.
Finalement, 200 fois plus cher, hein ?
200 fois plus cher,
oui. Que l'eau du robinet.
200 fois plus cher. Et puis, j'écoutais Hubert Reeves tout à l'heure qui parlait des continents...
De plastique.
Ouais. Donc, les bouteilles d'eau, ils contribuent. On produit 200 milliards de bouteilles en plastique d'eau tous les ans sur la planète. Il y en a une dizaine de pourcents qui est recyclé. Tout le reste part, effectivement, dans les rivières et dans la mer.
Donc, avec le GREI, vous avez fait tout un travail biographique, c'est ça ? Pour répondre aussi à ce type de questions ?
Voilà. Donc, le projet Méli-Mélo traite toutes les trois semaines à peu près d'un sujet. Mm-hmm. Donc, une idée fausse avec un texte de synthèse, donc qui fait un point scientifique sur la question, donc avec des références ou des ouvrages qui sont de qualité sur ce thème-là. Et puis un petit film de 2-3 minutes, dont tu as eu tout à l'heure un extrait sur l'exemple qu'on est en train de traiter aujourd'hui. Et puis des illustrations. Et tout ça est téléchargeable gratuitement pour l'ensemble des associations, des professionnels, des formateurs, des pédagogues. Et donc c'est vraiment des outils pédagogiques pour essayer de lutter contre ces idées fausses. Parce que l'eau, c'est quand même un problème citoyen. On ne pourra gérer l'eau correctement en France que si les gens ont conscience de sa valeur et des vrais enjeux, des vraies questions qui se posent et n'imaginent pas qu'il y a un vaste complot qui vise à leur faire croire des choses qui sont fausses.
Hubert Reeves, au Canada, l'eau fait l'objet de convoitises énormes. Parce qu'évidemment, vous avez des surfaces d'eau douce très très importantes.
Oui. Il y a un problème entre les compagnies multinationales qui veulent privatiser l'eau et les gens qui disent, l'eau, non. Non, je sais, c'est un problème.
Et les États-Unis regardent toujours en direction du Canada, s'assurant que là, il y a des réserves en cas de problème. Parce qu'on dit qu'à l'avenir, ça pourrait représenter des problèmes géopolitiques majeurs sur la planète.
Aux États-Unis, il y a déjà des très très gros problèmes entre la côte Est et la côte Ouest. Il y a des transferts d'eau importants qui se font parce que la côte Ouest manque beaucoup d'eau.
Oui. Alors, il y a beaucoup de questions d'auditeurs pour vous, Bernard Choca. Maurice nous dit ceci, les normes de contrôle de la qualité de l'eau de ville ne prennent pas en compte le contrôle des métaux lourds, des pesticides et autres produits chimiques néfastes. C'est vrai ou pas ?
Si. Il y a 63 paramètres qui sont mesurés de façon extrêmement régulière. Donc, tous les produits qui potentiellement peuvent se retrouver dans l'eau et sont dangereux, sont analysés. Donc non, il n'y a pas de risque sanitaire à boire l'eau du robinet dans les villes.
Claude nous dit, s'il n'avait pas cette odeur et ce goût d'eau de Javel, on en boirait de l'eau du robinet. Alors ça fait partie des questions, des remarques qui reviennent très souvent.
Évidemment. Oui, c'est une remarque exacte. L'eau est chlorée. Alors elle est chlorée pour deux raisons. D'une part pour assurer la qualité de l'eau jusqu'au robinet, puisque on désinfecte l'eau, enfin on désinfecte pas l'eau, il reste des bactéries potentiellement actives dans l'eau une fois qu'elle sort de l'usine, et donc il faut éviter qu'elle se développe dans le réseau. Et puis on augmente un peu les doses de chlore en ce moment à cause du plan Vigipirate, parce que...
Ah bon ?
Une des pistes possibles d'attentat, c'est la toxine botulique, donc qui est sensible au chlore, et donc c'est une façon de se prémunir contre ce risque.
Et sur les risques pour la santé du chlore lui-même, est-ce qu'il y a des études qui ont été menées ?
Le chlore lui-même ne présente strictement aucun risque pour la santé, donc il présente un inconvénient d'odeur. Donc, bon, ceci dit, l'odeur de chlore le chlore est très volatile. Donc, si on fait dégazer une bouteille d'eau pendant quelques heures dans un réfrigérateur, l'odeur et le goût vont totalement disparaître. Il y a quelques inconvénients complémentaires qui sont les produits issus de la chloration, donc les sous-produits de décomposition du chlore, en particulier lorsqu'on a de la matière organique dans l'eau, donc, dont certains peuvent effectivement poser des problèmes pour la santé, mais qui sont contrôlés au même titre que tous les autres produits, comme les pesticides dont on parlait tout à l'heure, ou les nitrates.
Fabrice nous dit ceci, on habite un village où le taux de nitrate est de 55 mg par litre, et il n'y en a quand même pas autant dans l'eau minérale, sans parler des pesticides issus de l'agriculture.
Alors, pour les nitrates, la teneur maximum est de 50 mg par litre, donc on est au-dessus. Donc, normalement, l'eau ne devrait pas être bonne à la consommation. Donc, bon, il faut éviter d'en faire boire aux jeunes enfants, aux femmes enceintes. Pour les adultes, ça ne pose pas de problème particulier.
Oui. Et Janine nous dit ceci, j'habite dans l'Oise, où l'eau du robinet est très dure, très calcaire. Quand je vois l'état des robinets, l'état des fonds de casserole après avoir fait bouillir de l'eau, je me pose la question de savoir quel effet ça a sur mon organisme, notamment les reins.
Non, ça n'a aucun effet néfaste. Ça a des effets sur les canalisations, effectivement, ça les entarte. Mais juste, enfin, je dis à cette auditrice et à toutes les autres personnes qui ont le même souci, donc qui du coup installent des adoucisseurs d'eau, donc pour essayer d'enlever cette partie de calcaire de leur canalisation, qu'il faut surtout boire l'eau avant de l'avoir adoucie, parce qu'on substitue du sodium au calcium, ce qui n'est pas forcément très bon pour la santé.
Ouais.
Donc, vraiment, utiliser l'eau, vous pouvez boire l'eau du robinet, même si elle est très chargée en calcaire. Par contre, ça peut être justifié de mettre un adoucisseur pour protéger ces casseroles ou ces canalisations.
Et pour les bébés, il y a beaucoup de questions aussi qui reviennent régulièrement sur ce sujet. L'eau du robinet, est-ce qu'on peut l'utiliser pour les biberons ? Hein, ça fait l'objet d'articles aussi récemment.
Non, bien sûr. Alors, le seul problème pour les nouveau-nés, enfin pour préparer les biberons, c'est lorsque l'eau est très chargée en ces minéraux, en particulier en sulfate. Donc, il faut faire attention lorsque l'eau est très riche en ces minéraux de ne pas l'utiliser. Mais sinon, elle ne présente strictement aucun risque bactériologique. Elle peut parfaitement être utilisée.
Jean-Jacques nous dit ceci. L'eau et surtout son contrôle et sa maîtrise ont joué un grand rôle dans l'histoire des civilisations. On songe à la puissance hydraulique des Romains. Question à Monsieur Pic. A-t-on une idée de la manière dont nos ancêtres préhistoriques, à l'époque de Néandertal ou d'Homo sapiens plus récemment, géraient l'eau ?
Ah, alors ça, c'est une sacrée question. Ouais. À ma connaissance, on ne s'est pas posé cette question, donc je suis sec. Mais en tout cas, il y a une chose...
On arrive à vous coller, parce qu'elle pique.
Il y a une chose qui est importante. Les singes, donc les primates, les singes qui sont essentiellement forestiers, ont toujours besoin de beaucoup d'eau. Donc ça a dû jouer un rôle considérable dans l'expansion de notre espèce hors d'Afrique.
Et
donc,
on observe la façon dont eux gèrent l'eau, justement
ben non, c'est pas posé la question à ma connaissance. Non, en fait, comme ils mangent beaucoup de fruits,
oui, ils ont de l'eau dans le fruit lui-même.
Ils peuvent compenser comme cela. Mais franchement, je crois qu'on ne s'est pas bien posé la question. Donc, on va se mettre au boulot.
Intéressant. Hein
bah ouais.
Là, vous avez une piste de recherche au moins pour les 10 ou 15 années à venir.
Programme de thèse.
Voilà, Hubert Reeves, exactement. On peut lancer ça. Le Grès, donc, on peut avoir le site hein, sur La Tête au Carré.
Oui, alors, j'aimerais plutôt le site de Méli-Mélo. Donc, il suffit de faire O Méli-Mélo. E-A-E-M-E-L-I-M-E-L-O.
Oui, comme Méli-Mélo.
Comme au Méli-Mélo,
voilà.
Pour avoir accès à toutes les ressources de Méli-Mélo.
Et donc vous allez produire des films régulièrement qui vont répondre
à toutes
les questions.
Il y a des petits films qui sortent toutes les trois semaines, donc les petits films sont sur une chaîne YouTube, on peut les visionner comme on le souhaite, et puis la documentation est sur le site web. Donc, et il y a aussi une page Facebook où on peut échanger, discuter, où les gens qui veulent poser des questions peuvent les poser.
Absolument.
Et ils trouveront des réponses.
Voilà, Bernard Choca, donc on met tous les liens sur le site de La Tête au Carré. Pascal Pic, à vous dans un instant avec le retour de Madame Néandertal. Hard time forgiving, even harder forgetting. Before you do, son, you might regret, friend. Hard time forgiving, even harder forgetting. Before you do, son, you might regret, friend. Took me for granted, but call it love if you will. Sena Bossey, Hard Time sur France Inter.
La tête au carré. Le club. Sur France Inter.
Hubert Rive, Bernard Choquat et Pascal Pic. Avec Pascal Pic, le retour de Madame Néandertal. Comment être sapiens? Le livre est sorti hier, c'est tout frais, aux éditions Odile Jacob. Vous faites parler Madame de Néandertal après clonage, hein, puisque vous la ressuscitez justement. Vous l'emmenez à Sotchi, en Russie, pour l'emmener à un congrès où elle va justement s'exprimer sur ce qu'elle observe de notre civilisation. C'est une idée qui les commande dans votre tête, hein.
Et en fait, on l'emmène pas à Sotchi. Tout se passe à Sotchi. Alors, l'histoire de cet essai, qui est un peu philosophique et anthropologique, bien sûr, commence lors d'une conférence qu'on me demande, donc, de faire la leçon finale de l'année scientifique. C'était en février l'année dernière. Et là, il y avait donc les Jeux Olympiques de Sotchi, bien sûr. Et il y avait ces manifestations, contre le mariage pour tous. Dont d'ailleurs, vous avez remarqué, les anthropologues se sont mis un petit peu à l'écart de cette controverse, tellement il y a une pauvreté dans ces débats.
Certains se sont exprimés quand même. Vous auriez aimé qu'on les entende plus, hein.
Non, en fait, on a hésité parce que c'était devenu complètement idéologique. Je suis contre, si vous voulez qu'on fasse, qu'on n'a pas le temps de s'exprimer, voilà. Donc, mais derrière cela, c'était une grande histoire. On a complètement oublié, et ça je le rappelle dans ce livre, bien sûr, on a complètement oublié ce qu'ont été les sciences russes il y a un siècle. C'est absolument incroyable. Et le premier centre de primatologie, donc d'études des singes,
c'est Sotchi,
dans une vraie perspective darwinienne, c'est à Sotchi. Ouais. Et là, il s'est passé des choses dans ce centre qui, franchement, aujourd'hui, on parle de transhumanisme, avec ce qui se passe à la Singularity University en Californie. Je peux vous dire, c'est une douce balade californienne à côté de ce qui s'est passé dans ce centre mythique où là vont être inventés, avec des protagonistes qui viennent en France, notamment au Collège de France, extraordinaire, comme M. Serge Voronoff. Et là, on a des gens qui vont faire une partie de la médecine moderne autour de la greffe osseuse, autour des xénogreffes. Ils vont s'intéresser au problème de rajeunissement. On a des gens extraordinaires et on voit passer Pavlov, Metchennikov, qui était le premier, d'ailleurs, sous-directeur de l'Institut Pasteur. Et c'est ce qui est fascinant, ce que j'ai redécouvert, c'est que, justement, quand Darwin sort l'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle, tous les pays occidentaux vont s'organiser assez vite contre la théorie darwinienne, enfin les conservateurs, alors que la Russie. Accueille la théorie darwinienne, ouais. Mais dans une perspective que l'on redécouvre aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils vont refuser, ce qu'on refuse encore aussi chez nous aussi, l'aspect malthusien, c'est-à-dire la loi du plus fort, ce qui n'a jamais été ça d'ailleurs, mais c'est la caricature. Et d'emblée, des personnages extraordinaires comme Kropotkin diront « Oui, Darwin, ça existe, c'est formidable, c'est une grande théorie du changement dans la nature, mais dans la nature, il y a aussi de l'entraide. » Et là, c'est intéressant parce qu'il y a une approche culturelle très complémentaire de celle qu'on aura dans le monde anglo-saxon. Ouais,
donc c'est une vraie redécouverte, en tout cas pour le lecteur, de cette histoire russe par rapport même à la théorie de l'évolution, effectivement. Est-ce que c'est la même chose du côté de l'astrophysique, Hubert Rives? Il y a des grands chercheurs russes aussi qui ont été très en avance sur les recherches.
Tout à fait, oui.
En mathématiques aussi.
En cosmologie, en astrophysique... qui était peu connu parce qu'ils travaillaient, c'était un peu bouclé, qu'on a redécouvert après coup, mais qui ont eu des intuitions et des théories tout à fait comparables aux meilleures qu'on a eues ici en Occident.
Ouais. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'en ce moment, dans un laboratoire secret russe, justement, on soit en train de cloner un néandertalien pour le ressusciter?
Eh bien, ce que je raconte, effectivement, c'est qu'on connaissait à peine les groupes sanguins, mais on ne connaissait pas l'immunologie, qui joue un rôle important sur les rejets de greffe, etc. Et donc, il y a eu énormément de tentatives, mais c'est vraiment l'île de Dr Moreau, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment des bricolages qu'ils font. Alors, aujourd'hui, ça choquerait énormément, compte tenu des comités d'éthique que nous avons.
C'est pour ça qu'il faut le faire en secret, justement.
Non, mais à l'époque, c'était pas en secret, c'était ouvert, parce qu'on ne connaissait pas. C'était vraiment un monde complètement ouvert. Et donc, toute une tradition, d'ailleurs, qui vient de Claude Bernard au Collège de France, qu'on va retrouver chez Pavlov, Metchennikov, etc. Et attendez, il y a eu un projet, lorsqu'on a réouvert les archives de la Russie, un projet qui était financé par Staline, de faire des soldats hybrides entre des chimpanzés et des hommes. Alors, les scientifiques n'étaient pas d'accord.
Ils sont allés jusqu'où dans ce projet?
Alors en fait, pardonnez-moi pour la vulgarité, ça a foiré, parce que d'une part, scientifiquement, bon, ça tenait pas, mais en tout cas, il y a eu beaucoup de tentatives, et la glaciation stalinienne, c'est-à-dire que Pavlov, le grand Pavlov, qui est le premier prix Nobel de physique ou physiologie, donc toute catégorie d'ailleurs en Russie, Pavlov sera très intéressé par ces grandes histoires, et comme il est le premier prix Nobel, Staline ne l'embêtera pas. D'ailleurs, Pavlov se permettra de critiquer critiquer d'ailleurs le régime stalinien. Mais à partir de 1925-1930, c'est fini. Donc la science russe va complètement être biaisée, notamment avec l'affaire Lysenko. Ils vont tomber dans des dérives. Alors, la même façon qu'en astrophysique, il y a eu de très très grands généticiens, mais qui vont très vite aller aux États-Unis et qui vont contribuer aux théories modernes de l'évolution.
Mais il y a beaucoup de fantasmes aussi, justement, sur les prouesses technologiques de la science. C'est-à-dire qu'on lui prête beaucoup de vertus et de capacités qui, au fond, on le voit bien dans le concret des choses, n'arrivent pas à se réaliser quand même.
Alors, on parlait de l'astrophysique. D'ailleurs, quand il y aura l'affaire du Spoutnik, quand les Américains entendent les deux Spoutnik, notamment avec la chaîne Laika, là, les Américains paniquent dans les années 50. Et ce qu'on ne sait pas, et ce que je rappelle, là, il y aura des missions commandées par le Congrès américain, où là, ils s'aperçoivent qu'ils sont très en retard à la fois dans les études en primatologie, donc l'étude des singes, des maladies, mais également dans la conquête de l'espace. Donc les deux sont liés. Donc Hubert et moi, nous sommes reliés par les singes, si je peux me permettre. Voilà. Mais en fait, bon, ça, j'explique d'où ça vient. J'explique le contexte qui pourrait faire que les Russes pourraient faire ce clonage. Mais la première partie du livre, évidemment, c'est cette dame qui est clonée.
Madame Mesmaskaya Dadiguée. C'est ça. Je prononce bien ou pas?
Oui, Maître Mesmaskaya Dadiguée. Dadiguée, c'est la circassie, c'est complètement mythique dans notre. C'est un tamilou, un petit peu, tout ça. Et surtout, je voulais rappeler à travers cela ce qui se passe aujourd'hui. Toute la paléanthropologie, et c'est justifié, a été très marquée ces dernières décennies, et vous en êtes le témoin, vous nous invitez régulièrement, mes collègues et moi, de l'axe un petit peu nord-sud, les australopithèques, l'expansion de l'homme, etc. Et puis, on a un petit peu oublié ce qui s'est passé quand même entre l'Europe et l'Extrême-Asie. Et là, en fait, quand il se passe beaucoup de choses dans le corridor de la mer Noire, c'est-à-dire entre la mer Caspienne et la mer Noire et la mer Caspienne, du coup, et là, il y a eu des échanges. Donc, les études que je cite datent de même pas quelques mois là-dedans. Oui. Et donc, il s'est passé énormément de choses sur cette immense Asie, donc sur l'Europe orientale et également sur l'Asie. Et on sait, grâce aux études de paléogénétique et quelques fossiles qui viennent un petit peu fixer ces études de génétique, on s'aperçoit qu'il s'est passé énormément de choses extraordinaires entre Néandertal, qui était l'homme du Nord, et nous qui butons en venant du Sud avec Néandertal, et on va s'hybrider avec eux. Enfin, je raconte cette histoire fabuleuse qui émerge aujourd'hui.
Alors, excusez-moi, parce que ça m'intéresse beaucoup, mais cette histoire de clonage, comment on s'y prendrait réellement pour cloner un Néandertalien?
Oh ben, les techniques, on les a chez les autres mammifères, donc ça commence à arriver
très vite. On prendrait quoi, là? On a des restes d'ADN?
Mais bien sûr, donc on a les ADN de Néandertal. On a été publié il y a quelques années, l'ADN complet d'un homme de Néandertal. Ouais. On a aussi bien l'ADN des mitochondries, qui permettent de reconstituer les filières de mère à enfant, et également l'ADN donc nucléaire, celui qui code pour nos caractères. Et on sait... alors ça, c'était...
Mais la mère porteuse, donc, ce serait évidemment une femme homo-sapienne.
Une femme homo-sapienne. Voilà. Mais il y a exactement 2 ans, il y a une controverse. Le professeur que je rappelle, le professeur monsieur George Church, qui était un grand professeur de génétique à Harvard, il avait dit dans une interview dans un journal allemand tiens, il serait bien peut-être qu'un jour qu'on trouve une mère porteuse pour cloner une femme de Néandertal. Ça fait un tollé, vous imaginez bien. Ouais. Et donc moi je me saisis de cela pour aborder d'un point de vue anthropologique évidemment ces enjeux d'aujourd'hui. Ouais.
Qu'est-ce que vous pensez de tous ces apprentis sorciers Hubert Reeves qui ont toujours existé dans le domaine scientifique? Hein,
oui,
mais faut les prendre au sérieux ou pas?
Ça, je ne me suis jamais posé la question.
C'est vrai?
J'ai pas de réflexion sur ce sujet.
Ouais.
Ça demanderait réflexion.
Ouais. Mais dans le domaine du nucléaire, on a un triste exemple aussi. On peut imaginer qu'on ait utilisé aussi l'atome à des fins délirantes, pour faire la bombe, par exemple.
Ah, oui, là, vous parlez des délires des scientifiques.
Mais oui, c'est
qui
ça.
Qui pensent que tout ce qu'on peut faire, on doit le faire. C'est ce qu'on appelle le délire technologique.
Ouais.
Et indépendamment des conséquences, en se disant, de toute façon, si on ne le fait pas, quelqu'un d'autre le fera. C'est ça qui est à bloquer, ce sont les dangers. La science est tellement présente dans notre monde, avec le nucléaire, l'électricité, les nanotechnologies, et l'impact du nucléaire est tellement important que c'est fondamental de voir en amont ce que donneront les projets. Alors, quel contrôle on peut avoir? Eh bien, les subventions. Les subventions, ces projets coûtent très cher.
Et s'ils sont pas, il y a des fous milliardaires qui sont capables de tout. C'est ça le problème. C'est ça. Bernard Choquat.
Moi, je m'interrogeais juste sur Madame Néandertal, parce que je me dis, on peut créer son génome, mais on ne peut pas recréer ni son environnement, ni son système éducatif.
C'est génial, vous allez voir. Parce qu'effectivement, je pose la question, parce que la première partie, c'est cette femme de Néandertal qui vient s'adresser blessé, elle prépare une conférence pour l'UNESCO, et comme le président Obama ou un président américain nous fait l'état de la nation, j'ai fait un état de l'espèce homo sapiens sur l'environnement, la procréation, la démographie, donc elle regarde notre monde, et au départ, en fait, à chaque fois c'est basé sur des faits scientifiques, hein, et des publications récentes, il y a eu des tas de reconstitutions aujourd'hui de faune et de flore fossile de l'époque de Néandertal, le mammouth, ça ne devrait pas tarder à arriver, et donc, la première idée, ça aurait été celle-ci. Vous avez raison, cher ami, de se dire, mais non, elle ne sera pas comme Néandertal. Mais bien sûr qu'elle ne sera pas comme un homme ou une femme de Néandertal. Parce qu'évidemment, on en a parlé tout à l'heure à propos des enfants prématurés, etc. Un jeune enfant va se développer dans ses potentialités avec l'environnement. Alors évidemment, l'idée aurait été de faire un parc moustérien, donc je joue un petit peu là-dessus. Mm-hmm. Hein, mais très vite, je dis non. Elle dit, non, heureusement, mes concepteurs et mes parents ont eu l'excellente idée de m'éduquer comme, en fait, tout enfant homo sapiens, et je vais vous montrer comment je suis homo sapiens, et en fait elle s'adapte complètement dans les nouvelles technologies, etc., ce qui serait le cas d'ailleurs. Et donc du coup, j'en profite pour parler de ces questions de procréation de nouvelles familles.
Évidemment. Il y a la PMA dans votre livre d'ailleurs, PMA, hein, mais ouais, c'est un peu particulier. Là.
Ouais, c'est préhistorique, maternal,
anthropogénéiste.
Il y a un petit peu d'humour là-dedans, il y a des petits jeux de mots, il y a un petit peu de pataphysique, mais en l'occurrence, c'est un texte qui s'inspire d'un genre qu'on connaît très bien, de Montesquieu, c'est comment peut-on être persan, et donc là c'est comment peut-on être sapiens ? Et donc, c'est dans la veine des engagements. On se croise souvent avec Hubert sur la biodiversité, sur la famille de demain, ouais, etc. Donc, c'est un livre qui se dit, voilà, je suis une femme de Néandertal, élevée parmi vous, mais je veux vous dire, vous, ce que vous êtes, les homo sapiens, et comment, effectivement, vous faites des choses absolument merveilleuses, mais comment aussi vous pouvez vous égarer sur des choses essentielles qui sont la famille, l'environnement, l'éducation.
Et voilà, une façon d'éclairer donc notre civilisation. Le retour de Madame Néandertal, c'est chez Odile Jacob, parce qu'elle pique, donc ce livre est sorti hier. La mère expliquait à nos petits-enfants, Hubert Reeves, Yves Lancelot au seuil. Et puis toutes les informations, les contacts pour parler de l'eau sont sur le site de la Tête au Carré. Merci à tous les trois, passez un bon week-end.